Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière.
Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Comme tous les jours, on est ensemble pendant une heure pour aborder une actualité de l'église locale. Et ce matin, on part du côté de l'Ariège, plus précisément en Couserans, pour parler de la destruction, mais surtout de la restauration du patrimoine religieux. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Nicole Ladger, présidente de l'association Patrimoine en Couserans. Bonjour à vous.
Bonjour. Je voudrais en tout premier lieu remercier Radio Présence de nous accueillir.
Eh bien, c'est un
pour
plaisir.
Pour pouvoir justement parler de cette région qui foisonne d'édifices religieux. Donc, je vous remercie infiniment de nous accueillir avec Père Bertrand.
Eh bien, vous l'avez introduit. Père Bertrand de Santonac, curé du Couserans. Comme je le disais en introduction, on va parler aujourd'hui de la destruction et de la restauration du patrimoine religieux. J'ai sous les yeux un rapport qui date du 6 juillet 2022, qui parle de l'état du patrimoine religieux. Aujourd'hui, on compte 100 000 lieux de culte en France, encore en activité, et environ 40 000 édifices sont antérieurs au XXe siècle, donc on a quand même un patrimoine religieux assez ancien. Est-ce que le premier problème sur cette destruction du patrimoine religieux, c'est pas qu'il y a trop d'édifices ?
Moi, je n'aime pas le mot destruction.
Ah.
Nous avons un patrimoine. Maintenant, effectivement, il a vieilli pour certains. Mais le mot destruction, non. La seule chose que l'on peut dire, c'est que pour laisser vivre l'histoire de ce bâtiment, parfois il a été transformé en salle d'exposition. J'ai vu, pas en Couserans, mais j'ai vu en chambre d'hôte même. Mmh. Voilà. Ça, c'est un côté qui me choque un peu, dès lors qu'on peut faire tout à fait un compromis, même s'il n'y a pas de lieu de culte, mais le laisser parler du culte qu'il y a eu pendant, pas des décennies là, mais des siècles. Donc, je dirais pas le mot destruction, mais je dirais une utilisation autre, et le reste qui serait lié à une certaine paupérisation, il faut le dire. Et ces édifices-là ont besoin de soins. Voilà, moi je parlerais plutôt dans ce sens-là.
Alors, c'est clair que cette problématique des... On a beaucoup de lieux de culte. C'est, au rapport de la population chrétienne ou pratiquante, c'est vrai que c'est... Nous, dans le Couserans, par exemple, il y a 129 églises. Alors évidemment, on ne peut pas célébrer la messe tous les dimanches dans chaque église. Puis ça n'aurait pas de sens, il n'y a personne. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de bâtiments pour la communauté telle qu'elle est aujourd'hui. Hein, que ça ne correspond plus à la réalité humaine, ne serait-ce qu'humaine, de nos villages. Et pour autant, nous, je ne sais pas si on a beaucoup de chance par rapport à d'autres régions, mais ce patrimoine, il est toujours là, il est préservé, il est en cours de restauration, et nous y tenons. Voilà, donc il y a une utilisation moins ponctuelle, ne serait-ce que pour un enterrement ou un baptême, ou une activité, petite activité de prière. Voilà, à nous aussi d'inventer d'autres pratiques que simplement la messe dominicale.
J'aimerais que vous me parliez de cette association Patrimoine en Couserans. Nicole Ladger, vous êtes la présidente. Quand est-ce qu'elle a été créée et quel est le but de cette association ?
Alors, nous entamons la 6e saison.
Donc, création dans 2016 à peu près.
Oui, c'est ça. Alors, je vais vous dire, le premier sentiment qui m'a percutée, eh bien, ça a été qu'il fallait sauver ces images. Et ces images, comme je l'ai dit, images, c'est aussi bien sculpture, peinture, bâti. Il fallait le sauver parce que, vous savez, je descendais de montagne et on avait pour habitude avec mon époux de nous arrêter un petit village qui est perché dans la vallée de la Belongue, en Couserans, qui s'appelle Galey. Et nous nous arrêtions à la dernière église, ce n'est pas une chapelle, la dernière église en hauteur. Et si vous levez les yeux, vous voyez délicieuses petites frimousses d'angelots, bien joufflues, bien encadrées de leurs ailes, tout en couleur. Et malheureusement, chaque fois que je descendais, alors ils sont positionnés sur les voliges de la toiture du porche. Et chaque fois que je les voyais en descendant, je les voyais s'affadir et se perdre non seulement de leur couleur, mais également de leur état, en fait, de peinture. Et c'est un premier moteur, et le second, ça a été Notre-Dame de Luzenac, cette petite église si atypique, mais que je voyais d'un très grand désordre. Parce que, comme dit Père Bertrand, elle était ouverte. Au 15 août, on célébrait donc la Vierge Marie. Il y avait davantage de cultes avant, mais bon. Je pense que cette question-là va se reposer le long de l'émission. Mais j'avisais un porche qui avait des difficultés à être bien en place, des boules qui tombaient et un intérieur mangé au xylophage. On le détaillera peut-être aussi après, ainsi que le retable. Et je me suis dit que je ne pouvais pas rester consommatrice.
Vous aviez besoin d'être actrice, de sauver.
Voilà. C'était inconcevable pour moi. Et je devais faire quelque chose, être acteur, oui, pour tenter de sauver tout cela en accompagnant d'autres personnes déjà sensibilisées. Voilà, pas toute seule. Pas cette prétention-là, mais accompagner ensemble. Voilà.
Je complète les propos de Nicole. En rappelant, alors on a aussi, sur le Couserans, on a aussi, c'est sûrement vrai ailleurs, mais nous on a beaucoup de chance d'avoir beaucoup d'associations. Donc le patrimoine Couserans est une de ces associations importantes. Hein, mais il y en a beaucoup, beaucoup, des anciennes. On parlait tout à l'heure de Galeille. Là, Galeille, il y a une association qui a 40 ans.
50 ans
même, qui a fêté son 50 ans. Voilà, 50 années, voilà, donc c'est bien. Et donc il y a un engagement ancien pour la préservation et la restauration du patrimoine. Hein, beaucoup d'associations locales, voilà, des petites... Bon, voilà. Il y a encore des choses à faire, hein, mais il y a eu déjà de belles entreprises de restauration, de réaménagement, de préservation. Et donc, voilà, on s'inscrit là dans une dynamique très, très importante et très, très vivace. Donc, merci à Nicole de son initiative qui vient... voilà, pour les édifices dont elle parle, il n'y avait rien à l'époque. Donc, maintenant, il y a quelque chose et c'est bien. Alors, on parlera, mais c'est en cours de restauration, la mairie aussi s'est impliquée, enfin, on va reparler de tout ça. Mais en tout cas, il y a une belle implication de tous, tissu associatif important, collectivité locale aussi, les mairies sont sensibles à ces questions-là chez nous. Il n'est pas question chez nous, par exemple, de détruire
ou de laisser à l'abandon.
Ou de laisser à l'abandon, il y a quelques lieux qui se calent peu, mais deux ou trois lieux qui sont peut-être un peu plus problématiques, mais c'est pas une question facile. C'est que on a des communes, on est dans le milieu rural, donc c'est pas des communes très riches. Hein, y a peu de revenus. On a des communes, par exemple, qui ont 4 ou 5 églises à leur charge. Donc c'est un très lourd engagement. Et pourtant, ils s'y mettent, ils s'y engagent. Voilà, donc il y a tout un tissu de... Et alors, de gens, c'est très intéressant aussi, des gens qui sont pas des pratiquants, mais qui sont attachés au patrimoine et avec qui on peut établir des belles relations, mais qui nous invitent après pour la bénédiction, par exemple, pour la bénédiction des travaux. Enfin, voilà, il y a toute une belle dynamique, je trouve, autour du patrimoine.
Oui, on trouve aussi des communes qui ont aussi bien le maire que les associations, qui sont désemparées aussi. Je crois que ce cas de figure, pour leur rendre grâce, parce qu'ils veulent, ils voudraient, faire, mais ils sont désemparés devant la tâche, l'envergure de la tâche. Ce que je voulais dire, c'est que le moteur de la création aussi de l'association, c'est que je souhaitais rendre possible ce que j'appelle l'impossible. Vous parliez de destruction, mais quand vous voyez certaines églises, certains édifices dans l'état dans lequel ils sont, tout le monde pourrait baisser les bras. Eh bien, moi, je n'ai pas voulu. Et c'est un des moteurs de notre association, essayer de sauver tout cela au titre, justement, de la croyance, parce que moi, je trouve que la plus belle, la plus longue histoire de l'homme, c'est justement la croyance Et le scellement, ce sont nos édifices. Donc, voyez, il fallait qu'ils continuent de vivre et qu'ils continuent de nous parler.
On le disait, 129 églises, édifices religieux en Couserans. Est-ce qu'on peut tout sauver ?
Oui, j'espère.
Pourquoi pas ? Oui.
J'espère qu'on pourra tout sauver. Il y a plusieurs projets en ce moment en cours. Donc, on reparlera de Notre-Dame-de-Luznac. Il y a, sur la même commune là, de Moulis, il y a Aubert, là, où on, grâce à un don généreux, on est en train de refaire toute la peinture. On a la mairie, enfin, l'assainissement, l'électricité, le chauffage, toute petite église romane. Mais voilà, là, il y a eu la participation d'un donateur. Il y a un projet important aussi de l'autre côté, à Bierte, une église un peu plus grande, où là, il y a une association qui s'est montée il y a à peine un an, pour la restauration des vitraux, par exemple, et un gros projet à 40 000 euros, je crois. Ils ont trouvé les subventions, ils ont trouvé des aides. La mairie aussi. Je salue aussi le maire de Bierte, parce que, qui s'est fortement engagé dans cette aventure. Voilà, il y a diverses choses. Il y a des choses en perspective. Enfin, le Couserans est aussi une terre de tourisme. Donc, au-delà de la question religieuse, il y a la question touristique.
Voilà.
Dans un village, dans le village ruraux, l'église, c'est le bâtiment un peu emblématique, historique, avec toute cette histoire chrétienne, mais aussi toute cette histoire patrimoniale. Alors après, l'enjeu, c'est évidemment d'ouvrir les édifices. Si l'édifice, quand les touristes arrivent ou les pèlerins, l'église est fermée, c'est très dommage. Hein, voilà. Donc, à Alos aussi, Alos, ils sont en train de restaurer l'église d'Alos là, en ce moment. Voilà, chaque fois par l'initiative d'une association. Et nous, au niveau paroissial, on a fait l'effort. Moi, quand je suis arrivé, là, il y a 7 ans, l'idée, enfin, ce que j'ai essayé d'impulser, c'est l'ouverture des églises. Dans beaucoup d'endroits, les églises sont ouvertes. Alors, il faut trouver des gens, il faut convaincre les mairies. On a peur des vols.
C'est une des solutions, en tout cas, pour préserver ce patrimoine religieux.
Crois, que les gens, de toute façon, ne serait-ce que pour les faire connaître.
Oui.
Il faut que les gens qui puissent venir prier ou visiter, ils puissent le faire en toute liberté. Voilà, donc on a installé tout ça. Ça marche plutôt bien. Je trouve que c'est pas mal. Toutes les églises ne sont pas ouvertes, parce qu'il y en a certaines qui sont isolées, etc. Mais les principales le sont. Et c'est très beau, je trouve que c'est une belle dynamique.
Moi, ce que j'en dirais également, pour rebondir sur Père Bertrand, c'est que, justement, de plus en plus, on trouve ces églises ouvertes. On fait avec les vols, parce que malheureusement, il faut bien le dire, hein, on s'expose à ça. Mais nous, associations, je ne veux pas nous mettre tout le temps en avant, mais c'est une réalité. On a souhaité que les églises également soient ouvertes au public, parce qu'on ne peut pas dire ou mal dire des personnes qui laisseraient tomber le patrimoine s'ils n'en ont pas la connaissance. Donc nous, notre but, ça a été de sensibiliser la population à ce formidable héritage qu'il y a en Couserans. Donc, on a ouvert aux Journées du patrimoine, tous les ans, depuis la fondation de l'association. On accueille les scolaires aussi. Et on fait des visites guidées régulièrement pour justement faire prendre conscience et connaissance de ces trésors qu'on a en Couserans. Et chacun de notre côté, Père Bertrand, nous de l'autre, on arrive à avoir pu prendre, faire prendre conscience à, je vais dire maintenant, à la majorité de la population de la qualité de leur, en termes de patrimoine, de la qualité de leur église. Et également, ce que j'ai bien entendu, Père, c'est que ça donne davantage la possibilité, en toute simplicité, de rentrer et de prier. Et ça, malheureusement, c'était une démarche qui, petit à petit, disparaissait. Dès lors que, quand on met la main sur la porte et que ça résiste et que l'on ne peut pas rentrer, la réponse était celle-là.
Oui, un mot aussi sur la question cultuelle. Hein, évidemment, ces édifices sont ce qu'on appelle affectés, c'est-à-dire les mairies sont propriétaires, mais l'église est affectataire. Et donc, il faut pouvoir aussi les utiliser pour ce pour quoi elles sont faites. Donc évidemment, tous les dimanches, je ne peux pas aller partout. On essaye de... L'été, bon, l'hiver, on est plutôt stable. Dans le Couserans, on a plusieurs... Chaque week-end, on célèbre quand même 10 messes sur le Couserans. Okay. Donc on a dans des lieux, bon, un peu partout, au plus près de ce que vivent les gens. L'été, on essaie de tourner un peu plus dans certaines églises, dans chaque secteur. Et on profite aussi des fêtes de villages, pour voilà, justement rassembler la population et puis m'intéresser aux questions de patrimoine. Ah oui, je pensais aussi à une autre église qui a été restaurée récemment sur initiative complète de la mairie, c'est le Porté d'Aspet aussi. Parce qu'on a, on a aussi une église qui est en Haute-Garonne, on est frontalier.
Que pour préciser, le Couserans, qu'est-ce qu'on compte dans le Couserans? C'est une partie d'Ariège, il y a une église en Haute-Garonne, vous venez de le dire. C'est où exactement?
C'est l'ouest du département de l'Ariège, à peu près un tiers. C'est un territoire très original, un peu à part. C'est un ancien diocèse, qui a été diocèse en gros de l'évangélisation, qui peut se situer au 4e ou 5e siècle, jusqu'à la Révolution. Donc c'est pas rien.
Surtout au 12e.
Un grand 1000 ou 1500 ans de diocèse. Et puis, qui a une identité très forte, très ancienne, avec une histoire riche, une diaspora aussi importante. On est beaucoup partis. Il y a un peu comme d'autres régions de France. Mais il y a une identité très forte. Ça compte aussi dans ces questions patrimoniales. C'est un territoire qui fait partie du diocèse de Pamiers depuis quand même longtemps. Je ne sais pas ce qu'on peut dire de plus.
Comment vous expliquez que la population française de manière générale, et spécifiquement celle du Couserans, soit aussi attachée au patrimoine religieux, aux édifices religieux? C'est leur identité, c'est ça qui compte?
Oui, déjà très forte. Voilà, il faut dire que le Couserans a un défaut, mais qui peut devenir un bien, justement, c'est que vivre en vase clos, ça, c'est malheureusement, je vais dire quand même excessif en Couserans. Mais les choses s'ouvrent. Alors, est-ce que c'est par l'ouverture des églises? Est-ce que c'est par le travail que fait Père Bertrand sur ses 129 églises? Est-ce que c'est l'ensemble des associations qui fait qu'on s'ouvre vers l'extérieur? Mais tout de même, le Couserans a souffert pendant très longtemps, d'où cette paupérisation dont je vous parlais, de vivre en vase clos et de ne pas s'ouvrir. Voilà, ça c'était quand même à souligner parce que maintenant on est dans une autre dynamique. Et petit à petit, je crois que tous les espoirs sont fondés tant sur le plan du patrimoine que sur le plan cultuel, dès lors qu'on accepte de bouger davantage et de tenir compte de ce qui se passe en dehors du Couserans.
On est tellement bien chez nous que...
Ça donne envie de venir, hein.
Oui, on vous invite avec plaisir. Il y a tout ça, ce que vous dites, c'est vrai, c'est une région rurale, de montagne, en situation...
Qui a ses habitudes.
Situation économique compliquée.
Oui.
Alors, il y a eu... L'exode rural a été très fort dans les années 50. Et puis là, il y a eu un retour ou une nouvelle population aussi de gens qui se sont réimplantés. Voilà, donc ça fait partie des racines. Moi, je crois que ça fait partie de l'histoire et des racines. Alors après, c'est peut-être pas le vrai pour tout le monde, mais de manière générale, nos bâtiments, ils sont... Alors, il y en a certains qui sont plus emblématiques. Je pense à la cathédrale de Saint-Lizier, par exemple. On a des lieux très forts. Là, ce sont des lieux très visités. Mais, une fois de plus, quand les églises sont ouvertes, moi, je constate que si l'église est ouverte, il y a de la fréquentation. Vous savez comment on le sait? On le sait parce que, comme dans nos églises ouvertes, on met des cierges à disposition.
Oui.
On voit que les cierges se vendent bien. J'ai l'air d'être un marchand là, en disant ça. Et on voit du coup qu'il y a des gens qui passent. Donc il y a ce souci, les gens ils rentrent, ils mettent un cierge. On le voit à Saint-Girons aussi. À Saint-Girons, l'église est au centre-ville. Elle est tout le temps ouverte de 9h du matin à l'été jusqu'à même 9h ou 10h du soir. Il y a tout le temps des cierges qui brûlent. Tout le temps des gens qui passent. Moi, je me suis tenu là. Des gens qui rentrent, ils rentrent, ils viennent une prière à la Vierge, ils repartent. Il y a quand même une belle fréquentation de nos édifices. C'est encourageant.
Et encourageant sur le plan donc culturel, mais sur le plan culturel aussi de patrimoine. Je crois que la récompense, elle est sur les deux.
Je vous propose qu'on fasse une première pause musicale, on revient dans moins de 5 minutes et on parlera dans cette deuxième partie d'émission sur les raisons qui peuvent expliquer en tout cas cette Destruction, je sais que Nicolas n'aime pas trop le mot du patrimoine religieux, ou en tout cas ce patrimoine religieux qui vieillit, on peut le dire.
Il vieillit, mais on a tous les espoirs justement qu'il puisse être pris en charge. Je pense qu'il faut rester positif. Il y a une réalité, oui, notre patrimoine souffre, il peut disparaître, mais on n'a pas la volonté, chaque être humain, de l'idée de destruction, non.
Eh bien, on en parle juste après la pause musicale.
Avec
on
plaisir.
Écoute « Je ne peux qu'imaginer » d'LTC.
Je ne peux qu'imaginer ce que je verrai quand je marcherai à tes côtés. Je ne peux qu'imaginer ce que je verrai quand devant ta face je me tiendrai. Je ne peux qu'imaginer. Je ne peux qu'imaginer ce que je verrai quand je marcherai, à tes côtés. Je ne peux qu'imaginer ce que je verrai, je me tiendrai.
Imaginez. imaginer ce que je verrai quand je marcherai à tes côtés. Je ne peux qu'imaginer ce que je verrai quand devant ta face je me tiendrai. Je ne peux qu'imaginer.
Église, Timothée Rouvière.
De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, j'ai toujours le plaisir d'être en compagnie de Nicole Ladjé, présidente de l'association Patrimoine en Couserans, et l'abbé Bertrand de Santenac, curé du Couserans, pour parler de la valorisation du patrimoine religieux dans cette partie de l'Ariège. On le disait avant la première pause musicale, j'aimerais qu'on arrive ensemble à identifier les raisons pour lesquelles le patrimoine religieux est dans cet état. Est-ce que c'est le cours normal des choses ou est-ce qu'il y a un manque d'investissement, d'entretien, de travaux ?
C'est les deux.
C'est les deux ?
C'est les deux, en fait. Et je pense à certaines mairies que je ne condamne absolument pas, mais que je comprends, qui freinent des quatre fers pour s'engager dès lors que leur moteur à eux, c'est de satisfaire la population. Le problème, c'est que les lieux de culte, au niveau proprement dit culte, donc fidèles venant à la messe, il y en a de moins en moins. Donc, certaines, qui sont pas nombreuses, mais elles existent, freinent pour justement investir, en plus des aides, dans la sauvegarde de leurs édifices. Donc, il y a quand même ce facteur-là, malheureusement.
Il y a aussi sûrement une part de responsabilité de l'Église elle-même. Alors, évidemment, notre souci premier, c'est l'entretien et le souci des pierres vivantes, hein, que sont les personnes. Cependant, dans beaucoup de lieux, on a c'est vrai, hein, délaissé, peut-être par force, parce que les communautés se réduisaient, on a délaisser les lieux. Si les lieux ne sont plus utilisés du tout, évidemment, les mairies se demandent pourquoi cet entretien, pourquoi. Donc, c'est pour ça que je crois qu'il faut aussi, nous, côté ecclésial, côté église, hein, reprendre conscience de la richesse de ce patrimoine, de son entretien. Moi, j'aime beaucoup c'est le pape, on prête ça au pape Jean XXIII qui disait que la paroisse est la fontaine du village. Et j'aime beaucoup cette expression. Et c'est vrai que si la fontaine du village se trouve à 40 km, on a le temps de mourir de soif avant d'y arriver.
Ou si elle tarit.
Ou si elle est sèche. Hein. Le souci actuellement de l'Église, c'est, je pense aux petites fraternités chrétiennes dans tous les diocèses, là, il y a une réflexion autour de ça, voilà, de pouvoir maintenir dans chaque lieu de vie une petite communauté de chrétiens qui se rassemblent, pour prier, pour partager, pour porter ensemble la mission. Pourquoi pas pour assurer aussi l'ouverture de l'Église et son accueil. Hein, voilà, pour que toute personne qui pourrait venir là puisse trouver un lieu de recueillement, de prière. Donc je crois qu'il y a une part de responsabilité de notre part. Et il faut le prendre de manière positive et dynamique. Hein, mais je crois qu'il y a quelque chose aussi.
Mais moi, je pense également que la société a changé tout de même.
Ah, je voulais y venir.
La société change. elle a changé. On est dans une époque, je vais appeler ça, d'industrialisation informatique. Et l'individu est malheureusement de plus en plus tourné vers lui-même. Et donc, je me suis posé la question, dans ces conditions-là, où est Dieu ? On ne va pas beaucoup à sa rencontre. Voilà. Et pour moi, c'est une interrogation très forte parce que je trouve une société en souffrance. Il lui manque de franchir les portes que, par exemple, Père Bertrand ouvre et d'y rester. Pas simplement, pourtant, je suis pro-patrimoine, mais il y a quand même une réalité. Je vois aussi des personnes qui rentrent, qui regardent vite fait 5 minutes et qui ressortent.
Et qui repartent, oui.
Voilà. Et cette société en souffrance, je crois que la réponse, c'est ce que j'ai évoqué.
Oui, d'ailleurs, il y aura un travail aussi pédagogique à faire. Hein, ce que disait Nicole, oui. C'est intéressant. Les personnes qui rentrent,
oui.
Si elles ne trouvent pas là un petit prospectus qui, d'un côté, leur permet de visiter le patrimoine et de le comprendre, parce que là aussi, hein, le constat qui est déjà ancien, de cette perte de culture chrétienne dans la société française, il est de plus en plus vrai, évidemment. Hein, les gens qui rentrent là, ils voient un tableau, ils voient une image, bon, ils ne savent pas trop. Hein, donc peut-être on prévoit aussi, on travaille là-dessus, hein, des petits fascicules. Et aussi du côté ecclésial, on y pense aussi, une aide à la prière, par exemple. Mmh. Hein, vous rentrez, faire une petite prière. Nous, il nous paraît évident, notre Père, je vous salue Marie, pour nous, c'est des prières évidentes, mais pas pour tout le monde. Mmh. Voilà, peut-être les aider. On essaie aussi de mettre un petit fond musical, religieux, qui apaise. Vous savez, aujourd'hui, voilà, on a des belles musiques, on a tout un trésor de musique chrétienne, grégorienne, etc., qui permettent de faire un petit fond musical dans nos églises pour que les églises soient un lieu accueillant. L'éclairage aussi, enfin voilà, mmh. Les cierges, j'en parlais tout à l'heure.
Et paisible.
Il faut le travailler, tout ça. Mmh. Tout ça, il y a des petites choses à travailler.
Alors, pour rebondir sur ce que disait Père Bertrand, on a justement fait des fascicules. Mmh. Des petits fascicules, pour le moment, j'en ai 2,5. Il y a Notre-Dame de Luzenac et il y a Saint-Vallier. Et je suis en train de faire l'église centrale de Saint-Géron, justement, pour que les personnes sachent ce qu'elles voient quand, mmh. Quand elles rentrent. Parce que je vais vous dire, cette phrase-là, pour moi, restaurer les édifices religieux, c'est les installer dans un cadre de vie de notre société. Alors qu'ils en sont, pour le moment, je ne vais pas dire exclus, mais ils sont en retrait. Mmh. Et je résume ce que Bertrand vient de dire, c'est qu'il y a divers moyens de remettre, justement, de réinstaller les édifices dans ce cadre quotidien de la vie. De les garder quand ils passent la porte du porche, par des petites musiques douces, apaisantes. Par qu'est-ce qu'ils viennent voir, qu'est-ce qu'ils viennent chercher. Mmh. Ça peut être un petit recueil de prières qui est là, et ça peut être un petit fascicule qui leur fasse visiter l'église.
Mmh. Voir, pourquoi pas, des personnes
oui.
Qui accueillent aussi.
Des bénévoles.
Qui sont là.
Oui, c'est vrai.
Je pensais, vous savez, l'idée du tourisme religieux. Mmh. Hein, aujourd'hui, on aurait là quelque chose j'allais dire à vendre, mais oui, de dire, voilà, se positionner en tout cas. Prendre conscience, nous, il faut que l'Église, on prenne conscience qu'on est à 3 à 5% de la population, on est un petit reste,
oui.
Bon, mais porteur d'un trésor, et qui a une pertinence pour aujourd'hui. Les crises récentes, celles que nous avons traversées, que nous traversons encore, nous montrent bien que, voilà, on est porteur d'autres valeurs, d'une espérance. On est porteur d'un projet de vie. Bon, tout ça, il faut qu'on apprenne il faut qu'on reconsidère qu'on n'est plus... Tout le monde ne le sait pas. Mm. Les gens, ils ne viennent pas parce qu'ils ne savent pas et parce qu'ils ne nous trouvent pas très accueillants, peut-être. Voilà, nous, il faut qu'on travaille ces questions de la présentation, de l'accueil, de l'appel. Voilà,
on en est les garants, moi, voilà. Je trouve.
Et vous pensez que si vous travaillez, on parlait d'éclairage, on parlait de fond musical, ça va donner envie aux gens de donner pour continuer à entretenir ? Ou est-ce que c'est trop ambitieux ?
Non, là, ça me paraît très ambitieux parce que les sommes sont titanesques. Mmh. Elles sont titanesques et heureusement qu'on a des entités comme le département, la DRAC, la région qui viennent en aide. C'est quand même 80%. Des aides. Donc, ce qui reste aux communes, c'est tout juste 20%. Mais des fois, c'est 20% par rapport à la somme totale. Parfois, c'est trop. Mmh. Voilà.
La Fondation du patrimoine aussi. Mais oui, je trouve votre question intéressante. Moi, je pense qu'il y a aussi des petites choses. Je pensais, on parlait tout à l'heure de l'association de Galeille, là, qui a fêté ses 50 ans. Eux, depuis 50 ans, ils organisent une petite vente aux enchères. Mmh. On a la messe d'abord, et puis après, il y a une petite vente aux enchères. Et avec ça, bah, petit à petit, ils ont récolté des petites choses. Et avec ces petites choses, qui sont devenues des choses plus importantes, ils ont pu faire des petites actions concrètes. Restauration d'un tableau, rachat d'un meuble, etc. Donc, je trouve qu'il y a aussi cette cet engagement, il y a les grandes institutions, il y a les grands moyens. Quand on touche à la structure, par exemple, là, on va refaire le toit de Saint-Vallier, par exemple. Ça, c'est la mairie de Saint-Giron qui s'y engage. On espère que ça va enfin arriver. On m'a dit que oui, que c'était en cours, là, donc, cette semaine. Donc,
la bonne espoir.
J'y crois. Mais là, donc, évidemment, là, on parle de milliers de dizaines ou de centaines de milliers d'euros. Mais voilà, mais par contre, des petites actions ponctuelles, on peut faire participer beaucoup de gens là-dessus.
Toutefois, si je peux rebondir, c'est l'exemple de Saint-Vallier. C'est très vrai, Père Bertrand. On peut, par des petites choses, valoriser notre patrimoine. Tout de même, là, nous, on est en situation bloquée, pour dire, sur l'église Saint-Vallier, ce n'est pas de la malveillance, hein, je le souligne bien. C'est-à-dire qu'il y a des moyens qui manquent. Et ce toit, merci Père Bertrand, alors ça me donne de l'espoir, parce que pour restaurer des petites choses, il faut que les grandes soient en ordre. Parce qu'on ne sera jamais autorisé, puis c'est mettre l'argent par les fenêtres, que de restaurer des petites choses pour que l'humidité les dévore. Donc, tant que le point phare, et c'est le plus cher, c'est les mises hors d'eau, qu'on appelle. C'est-à-dire rendre l'église saine, sans infiltration, sans humidité. Et là, oui, on peut accéder à ces restaurations, on ne va pas dire petites, c'est parce que ce sont des objets, mais c'est justement des petites choses qui sont grandes au regard. Voilà, et ça, j'espère qu'à Saint-Vallier, on va finir par voir le jour, parce qu'il y a un programme peint extraordinaire et qui pleure son enduit régulièrement par plaque.
C'est pour ça que c'est un travail de collaboration,
voilà.
Hein, d'articulation entre...
Les
institutions, la mairie, les fondations comme la Fondation des patrimoines, l'architecte des bâtiments de France, la DRAC, etc. Toutes ces, et toutes les associations, voilà, et la paroisse aussi. Voilà.
Et les mécènes.
Et les mécènes, chacun prenant sa place. Il y a besoin de tout le monde. Ce qu'a fait l'initiative de Stéphane Bern, par exemple, au niveau national, est très emblématique. Voilà, c'est intéressant. Bon, on peut penser ce qu'on veut, mais il a mis le regard sur cette activité, sur cela, et chaque année, ça permet de sauver des bâtiments. Voilà, moi, je trouve, parce qu'il y a le patrimoine religieux, puis il y a tout le reste du patrimoine.
Ah ben, bien sûr.
Mais non, je trouve qu'il y a moi, je suis plutôt positif, c'est de mon tempérament, hein. Mais je trouve qu'il y a un bel engagement de tous. Il faut des fédérateurs, il faut des lanceurs d'alerte, comme Nicole, c'est bien, et d'autres, mais il y a des choses qui se font, et c'est quand même positif, hein. Je trouve que le programme là, dont vous nous avez parlé au niveau national, cette enquête montre bien qu'il y a une volonté, il y a un désir de faire des choses, et que les gens se mobilisent, voilà, prennent conscience de la réalité du terrain, mais que c'est pas foutu. D'ailleurs, détruire, par exemple, s'il était question de détruire une église, ça coûte très cher.
Oui, déjà.
Et la symbolique est forte.
La symbolique est très forte, mais ça coûte très très cher.
Vous savez, c'est notre
raser
vie.
Ces bâtiments,
c'est l'image de
c'est des dizaines de milliers d'euros. Mettons-les dans la restauration.
Pardon.
Allez-y, Nicole, et j'aurai une question pour vous après.
Oui, non, mais je vous écoute.
On l'a très brièvement abordé en début d'émission. Il y a certains édifices religieux qui sont transformés. Des restaurants, des chambres d'hôtes, même une discothèque. Est-ce qu'il faut aller un petit peu vers cette direction ou on reste dans le sacré et on n'y touche pas?
Oh là, je suis directe, non.
Ah oui, ben, oui. C'est catégorique. Hein,
c'est catégorique. Voilà. Il y a un de mes professeurs qui est une image éminente à l'université qui ne pense pas pareil parce que pour lui, c'est où ça existe ou ça n'existe plus. Mais il peut y avoir des compromis, justement. En faisant des efforts, on peut justement laisser la parole à toutes ces vieilles pierres et à ces peintures. C'est ça qu'il nous faut garder. C'est notre histoire d'homme. Et comme je l'ai dit au début, la plus belle histoire de l'homme pour moi, eh ben, c'est justement sa croyance au fil des siècles, auprès de Marie, de Jésus-Christ, mais dans un lieu que maintenant on appelle un élément du patrimoine. Mais surtout pas le transformer. Si on le transforme en lieu, comment dire, profane, merci Père Bertrand, si on le transforme en milieu profane, eh bien on lui enlève la parole. Mmh. Et on l'empêche de nous dire qui étions-nous, comment faisions-nous. Mmh. Et ça, c'est important. C'est notre histoire.
Alors, je vais un peu nuancer.
Moins catégorique. Hein.
Moins catégorique. Alors, ça se pose. Je pense que de toute façon, la question ne se pose pas dans nos territoires ruraux. Mmh. Je vois, on a eu un cas là, d'une église à Lescure. Il y avait deux églises. Il y en a une qui a été désaffectée. Elle est toujours dans le même état depuis 30 ans. Mmh. Voilà, ils n'ont rien. Parce que, en fait, d'abord, ça coûte beaucoup d'argent. Hein, imaginez faire restaurer ces bâtiments, il faut faire un plancher, plusieurs, etc. Bon, c'est encore de l'argent. Donc, il faut trouver des privés qui fassent ça. Et dans le milieu rural, bon, moi, je pense pas. Ah, ça peut se poser en ville, hein, où là, on peut convertir en appartement, etc. Moi, je pense que s'il fallait détruire, je préférerais à la rigueur. Ça, c'est pas, c'est ça. On a dans Saint-Giron des bâtiments qui étaient autrefois des anciennes églises et qui sont maintenant des cafés.
Dommage.
Bon, c'est l'histoire. Bon, tout ce qu'on pourra préserver, on le préserve. Si on ne peut pas, on fera avec. Moi, je me battrai pas contre ça. Mais c'est, pour nous, en tout cas, ce n'est pas d'actualité. Je vous dis, pour plein de raisons, ne serait-ce que des raisons techniques et pratiques.
Et pratique.
C'est encore plus compliqué que de restaurer. Mais comme dit Nicole, c'est vrai que ce patrimoine religieux, il exprime aussi nos racines.
Oui.
Aujourd'hui, on est attaché à ça, d'où on vient, avant de se demander où on va, peut-être d'où on vient. Mm. Voilà, donc tant mieux, profitons de ça. Bon, dans les lieux où ça se fait, je préfère encore. Voilà, et après, il y a des lieux où il faudra détruire parce que le bâtiment est insalubre et on ne pourra rien faire. Mais on a beaucoup construit d'églises en France, en particulier au XIXe siècle. Certaines ont été entretenues, la majorité, heureusement, d'autres sont en très mauvais état. C'est des décisions. De toute façon, je pense que dans tous les cas, ce sera des décisions très difficiles à prendre.
Oui, et je l'espère que ça permettra, cette difficulté de prendre des décisions, de permettre de réfléchir dans le bon sens. Voilà. Moi, il me semble qu'un édifice religieux, il doit rester un édifice religieux, mais ça ne l'empêche pas de donner des concerts, par exemple. Voilà, de voir pourquoi
on
pas.
On peut adapter un petit
mais
peu.
Mais oui, il y a plein d'idées qui peuvent être. Faire une exposition de magnifiques peintures à l'intérieur. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites pour justement redonner vie au bâtiment, mais ne pas oublier qu'il était un lieu de culte, avec notre histoire d'homme. Mmh. Et quand je vois des chambres... comment dire, une nef. Non, c'était pas, c'est l'inverse. C'était l'abside. Il y avait deux chambres en mezzanine dans l'abside et on dormait face aux vitraux.
Le cadre est sympathique.
Moi, je l'ai vu dans des communautés religieuses.
Hein. Oui,
Nicole,
mais...
Moi, j'ai vu des communautés religieuses qui ont réaffecté leur chapelle dans des monastères. C'est devenu, ils ont fait deux ourdis. Il restait la chapelle tout en haut. Et en dessous, ils ont fait une salle de réunion. Parce qu'en fait, il y avait une chapelle de 200 places, et elles étaient 20 religieuses, ça n'avait plus un grand sens. Non, ça dépend.
À Émilie de Roda, l'école que fréquente mon époux, enfin, que fréquentait, on est à la retraite, mon époux, c'est voilà. Le cas, j'entends bien. Mais dans l'âme, elle est restée une chapelle, elle est restée une église. Voilà. Mais faire de l'argent, je vais dire, sur un édifice cultuel alors qu'on peut lui laisser son histoire. Oui, pardon d'être si directe, mais je m'engage à ça. Moi, je ne le sens pas. On peut trouver un compromis.
J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur l'association Patrimoine en Couseran. Est-ce que vous organisez des événements, des concerts, des cagnottes en ligne pour sauver ce patrimoine religieux?
Oui. Et oui, il fallait bien trouver des idées pour récolter des fonds. Alors, la première idée, ça a été de faire et d'offrir plusieurs concerts, spectacles, que ce soit danse, théâtre, concerts classiques, variétés, pour qu'il y en ait, enfin, c'est hétéroclite, mais c'est pour qu'il y en ait pour tous les goûts, comme on dit. Donc, à chaque saison... on monte un programme de spectacles, majoritairement de concerts, et qui se déroule donc également majoritairement dans nos églises.
Mais
parce que justement...
Mais pas que.
Pas que.
Non.
selon le programme.
Voilà, c'est ça. Ben, par exemple, la variété, je vous suis la main dans la main pour ça, Père Bertrand. La variété, nous allons à une petite salle communale à Castillon. Et nous n'avons jamais eu l'idée, par exemple, d'aller chanter du Brel ou du Brassens dans nos églises. Voilà, donc on met en place un programme, je vais appeler ça musical, et en même temps, parce qu'il faut sensibiliser les gens, il faut qu'ils comprennent pourquoi ils peuvent venir à ces spectacles, il faut qu'ils sachent ce qu'ils ont. Eh bien, on a mis en place des visites guidées et des conférences pour justement parler de notre patrimoine.
On réfléchit à ça aussi. Alors, bon, sur le Couserans en particulier, il y a beaucoup, beaucoup de concerts. Je vous ai dit que c'est une région touristique. C'était une charge d'ailleurs de décision et de travail importante. On a créé un groupe là, qui réfléchit un peu à ça. On est confronté à ces questions dont on parlait. Quel programme, par exemple, on peut accueillir dans une église? C'est compliqué. On a des divergences avec certains chefs de chœur qui voudraient faire de la variété, par exemple. Mais ils disent « Ah oui, mais c'est pour la restauration de l'église ». Voilà, mais bon, enfin, on va travailler sur toutes ces questions-là. On s'était dit aussi que ce serait bien, aussi, ce serait une bonne occasion pour rappeler à ce moment-là le lieu dans lequel on est, que ce n'est pas un lieu anodin, que voilà. Mais c'est vrai, voilà, il y a beaucoup d'initiatives oui, qui sont prises pour essayer de, non seulement de récolter un peu d'argent, mais surtout de sensibiliser les personnes qui redécouvrent le lieu de d'une manière différente. Voilà. Ouais.
Il nous reste moins de 2 minutes à cette émission, je vous l'ai dit, ça passe très rapidement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, on voulait parler de 2 édifices religieux, on n'a pas eu le temps, Notre-Dame de Luznac et l'église de Saint-Vallier. Qu'est-ce que concrètement vous avez mis en place pour restaurer ces 2 édifices?
Alors on va parler surtout de Notre-Dame de Luznac. Et Notre-Dame de Luznac est une église totalement atypique, elle a un clocher, on appelle maintenant un clocher parce qu'elle est dotée d'une cloche, mais c'était une lanterne funéraire. Dès lors que, donc il y avait le fanal hein, qui était tout le temps allumé, et elle était une église funéraire, oui, et pour faire rapidement, elle est passée ensuite une église accueillant des confréries, donc des agrandissements sur cette église. Et enfin, elle est devenue église paroissiale. Bon, dans tout ce parcours, il est visible, il est lisible à l'intérieur de l'église, donc il me fallait la sauver. La première des choses, c'était ce retable qui était mangé au xylophage, qui était abandonné, qui allait aller au feu. Et j'étais déterminée à le sauver. C'est vrai que, de façon peut-être un peu réaliste, la DRAC m'a dit « Nicole, abandonner, c'est pas faisable », mais vous savez, je suis malheureusement quelqu'un de têtu. Je trouve qu'on peut rendre possible l'impossible, et bien ça, c'est fait. Et le retable a eu sa première phase de restauration en juin, et la deuxième commence dans quelques jours. Et le toit... Donc c'est l'association qui a pris ça en charge, qui l'a financé par rapport à ce que vous évoquez, les concerts, etc. Et également, on a financé sa mise hors d'eau. On n'aurait pas pu s'occuper du retable si on ne l'avait pas mise hors d'eau. Voilà, avec main dans la main Damien Sou, que je le nomme parce qu'il a un dynamisme fou. Et enfin, cette mairie, depuis 2 ans, nous tient la main et on peut arriver à sauver Notre-Dame de Luznac. Mais un jour, j'aimerais parler que d'elle.
Eh ben, ça sera l'occasion de vous réinviter. Pour clôturer cette émission, Père Bertrand, il faut être dans le positif. Hein, c'est ce qu'on retient de cet échange.
À l'espérance.
Dans l'espérance, on terminera là-dessus. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup en tout cas d'avoir fait le déplacement. Ben, je viendrai.
C'est nous qui remercions.
Merci d'être venus. Merci à tous les deux d'être venus, d'avoir participé à cette émission. Merci aussi aux auditeurs d'être fidèles à ce rendez-vous, Radio Présence. Si vous voulez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne. Bon, ben c'est pas grave, le jingle ne part pas, mais en tout cas, je voulais vous remercier. Peut-être un petit mot, on peut suivre vos actualités sur un site internet?
Oui, on a un site qui s'appelle patrimoine en Couserans-. Word, non. Mon mari va m'aider, vas-y.
Patrimoine en Couserans.
Patrimoine en Couserans.
Ça, tout se tient.
Tout attaché.
Point WordPress.
Point WordPress.
Point com.
Point com. Patrimoine en Couserans. Point WordPress. Point com. Merci à tous les deux d'avoir accepté l'invitation encore. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.